RCF.
RCF, Fabrice Gironnet.
18h10 sur RCF, le 18-19, le premier de la semaine, c'est avec Alexis Claudretz.
Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver, de vous accompagner pour une nouvelle semaine. Le rendez-vous quotidien, c'est du lundi au vendredi, 18h10, 19h, le magazine en région Champagne-Ardenne sur RCF, Champagne-Ardenne avec le DAB+, sur RCF Cœur de Champagne, RCF France-Ardenne via la bande FM, avec du monde autour de cette table. Jean-Pierre Benoît n'est pas encore là, mais nous rejoindra d'ici quelques instants. Kylian Jadot, lui, a déjà pris place à mes côtés. Bonsoir Kylian.
Bonsoir Alexis.
Il n'y aura pas de météo ce soir, on vous a mis sur d'autres missions. Qu'est-ce que je vous ai demandé de faire toute la journée pour que la météo ne soit pas prête à 18h10, Kylian ?
Tout plat de montage pour vos émissions préférées tout au long de la semaine.
Bon, nos auditeurs ont hâte de les retrouver. Et vendredi, elle nous a dit qu'elle nous quittait, c'est Manon Brévan, notre stagiaire à la rédaction. Lundi, on lui manquait déjà, c'est pour ça qu'elle est là ce soir en direct. Salut Manon.
Bonsoir Alexis.
Bon, pas de météo non plus pour vous, mais vous allez assister à cette émission et rester avec nous jusqu'à 19h si vous en avez envie. Au programme ce soir, un nouveau BRICS, l'Éthiopie, c'est l'objet de la chronique Regard sur le monde de Jean-François Boulanger, un maire qui nous parle, François Garcia et l'édile de Janda. Et puis en deuxième partie d'émission, on vous fera découvrir plusieurs initiatives, notamment le Made in Marne, cette marque qui est l'éclat du terroir sous la direction d'Annie Coulon. On sera également avec Sandrine Lebec, chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale. Elle présentera des concerts de Noël qui sont en approche. Et puis on ira faire un tour du côté de la cité scolaire de Cézanne avec Agnès Poiré qui en est la proviseure. Elle revient sur ses 4 dernières années. Voilà pour le sommaire de cette émission. Nous, on commence par regarder sur le monde avec notre chroniqueur ce lundi soir, Jean-François Boulanger, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous pour cette chronique. Le 15 novembre dernier, le journal Le Monde publiait dans ses pages de la République internationale un article intitulé « L'Éthiopie veut un accès à la mer Rouge sans passer par la guerre ». Le Premier ministre Abiy Ahmed a affirmé ne pas vouloir envahir les pays voisins, mais discuter avec eux pour satisfaire cette demande. Cette information qui n'a guère été relayée par les médias audiovisuels vous paraît cependant intéressante. Jean-François Boulanger, c'est le choix que vous faites aujourd'hui. Pourquoi ?
Pourquoi ? Ben parce qu'elle est révélatrice de la montée en puissance d'un pays africain que l'on n'est justement pas habitué à associer à l'idée de puissance. Bien au contraire, puisque pour nous, l'Éthiopie, c'est plutôt le pays de ce qu'on appelait jadis les petits Éthiopiens qui étaient victimes régulières de la famine et à qui on parlait lorsqu'on s'adressait aux enfants pour leur expliquer qu'eux, au moins, ils n'étaient pas comme les petits Éthiopiens et qu'ils auraient intérêt à manger tout ce qui était dans leur assiette. Or, justement, les choses sont en train de changer et nous en avons une preuve avec l'entrée de l'Éthiopie dans le groupe des BRICS, décidé lors du 15e sommet de ce groupe, le groupe des BRICS, en août 2023.
Alors on va prendre les choses dans l'ordre, si vous le voulez bien Jean-François. Revenons donc d'abord avec vous sur cet événement et aussi sur la naissance et l'évolution de ce groupe des BRICS.
Alors les BRICS sont au départ un groupe de 4 puis 5 pays qui se réunissent tous les ans depuis 2011. Alors les BRICS au départ ce sont donc le Brésil, c'est le B, la Russie, c'est le R, l'Inde, I, la Chine, C, et l'Afrique du Sud, S, comme South Africa. Et au départ, il se constitue en 2009 sous la forme des BRIC, parce que l'Afrique du Sud n'en fait pas encore partie. Et à ce moment-là, il se donne en quelque sorte la définition suivante, des pays à forte croissance, dont au début du XXIe siècle, le poids dans l'économie mondiale augmente. Et selon la banque Goldman Sachs, qui publie à cette date un rapport sur ce groupe de pays, ce groupe devrait atteindre en 2040 un PIB global égal à celui du G7, c'est-à-dire les pays censés être les plus riches du monde, parce que les pays des BRIC ont adopté l'économie de marché, Chine et Russie comprises, et ont engagé des réformes qui devraient leur permettre d'intégrer l'économie mondiale et d'y tenir une place croissante. Et donc aujourd'hui, ce groupe apparaît un peu comme une alternative économique au G7 et à l'Occident. De ce fait, de nombreux pays de ce qu'on appelle le Sud, qui ne sont pas forcément si au Sud que ça géographiquement, aspirent ou aspiraient à rejoindre le groupe des BRICS. Et ils étaient 23 dans ce cas à la veille du 15e sommet donc, qui a eu lieu en août 2023. Et finalement, seuls 6 de ces pays ont été admis. Alors, je les cite, l'Iran, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, les Émirats Unis, l'Égypte et enfin, c'est le sujet d'aujourd'hui, l'Éthiopie. Alors même que des pays aussi importants économiquement, voire davantage, et ou démographiquement, que l'Algérie, l'Indonésie ou le Nigeria ont vu leur candidature refusée.
Il y a des pays que l'on imagine assez facilement pourquoi leur candidature aurait pu être refusée, et il y a des candidatures donc qui ont été acceptées comme celle de l'Éthiopie qui sont un peu plus surprenantes. Comment expliquer ce choix effectué par les 5 BRICS qui n'avaient pourtant que l'embarras du choix, 23 pays au départ, Jean-François?
Ah oui, absolument, hein. Et donc il y a un choix qui est un choix délibéré. Alors l'Éthiopie peut s'appuyer sur un certain nombre d'arguments. D'abord son poids démographique, une population de 120 millions d'habitants, ce qui la place au 12e rang mondial et au 2e rang en Afrique, après le Nigeria, justement, qui n'a pas été pris. Par ailleurs, le pays, effectivement, a changé depuis l'époque des famines. Pendant longtemps, l'économie du pays avait été basée sur l'agriculture, qui représentait 90% des exportations du pays, 80% des emplois. Par ailleurs, deuxième handicap, le pays connaissait régulièrement des guerres civiles opposant l'ethnie dominante, l'ethnie Amhara, qui est chrétienne, à différentes minorités, dont les Tigréens, les Érythréens, etc. Et c'est dans ce contexte, justement, que le pays avait connu plusieurs famines, dont les plus connues sont celles de 1984-85, qui avaient suscité des actions caritatives un peu partout dans le monde, et une chanson bien connue.
Comment cette situation a-t-elle évolué depuis ces famines ?
Alors, l'Éthiopie a multiplié les efforts pour attirer les investisseurs étrangers, en particulier dans le secteur textile. Et c'est justement un des gros arguments que peut faire valoir aujourd'hui l'Éthiopie. Les investisseurs étrangers peuvent importer leurs machines sans frais de douane en Éthiopie, bénéficier d'une exemption d'impôt pendant 10 ans, de loyers très inférieurs au prix du marché, et d'eau et d'électricité quasiment gratuites. C'est pour cela que de grandes marques se sont implantées dans le pays, où elle bénéficie donc d'une main-d'œuvre peu coûteuse. Enfin, dernier élément, les accords commerciaux avec l'Union européenne lui permettent d'exporter vers l'Union européenne quasiment sans droit de douane. Résultat, un enrichissement du pays qui fait apparaître une catégorie d'Éthiopiens, bien loin justement des petits Éthiopiens que j'évoquais tout à l'heure, les millionnaires éthiopiens. Il y en a 2700 en 2015, soit le double depuis 2007. Et à partir de 2004, le pays a connu une croissance supérieure à 6%, atteignant jusqu'à 9,6% par année, hein, bien entendu, pour la décennie 2010-2020. Et le FMI prévoit une croissance de 6,1% pour 2023, et les prévisions pour 2024 sont un peu inférieures, 6,2%, en raison notamment de la guerre d'Ukraine et d'une guerre civile au Tigré sur laquelle on reviendra. Et l'industrie donc représente aujourd'hui 10% du PIB, avec des exportations de produits industriels, mais aussi de produits agricoles, comme le café, mais aussi les fleurs. On ne sait pas qu'il y a une partie des fleurs qu'on trouve sur le marché français qui viennent du Kenya, mais aussi d'Éthiopie. Plus de la moitié de ces exportations sont destinées aux pays européens, et un tiers à l'Asie, Arabie Saoudite, qui n'est pas très éloignée, mais aussi Chine et Japon. Donc, ajoutons à cela que la dette extérieure du pays, aujourd'hui, recule.
Tout va donc pour le mieux en Éthiopie, Jean-François ?
Ben, oui, peut-être, mais il y a quand même deux fragilités importantes. D'abord, la diversité ethnique qui a provoqué des guerres civiles et qui demeure, cette diversité ethnique, et aussi, c'était le point de départ de notre intervention, l'enclavement territorial. L'Éthiopie n'a pas d'accès à la mer. Et les deux problèmes, d'ailleurs, sont mélangés parce que, jadis, l'Éthiopie a eu un accès à la mer en Érythrée, et justement, c'est par là qu'il y a des problèmes, si on peut dire.
Justement, vous évoquez l'Érythrée, Jean-François Boudelanger. N'est-elle pas un pays indépendant ?
Alors oui, l'Érythrée est aujourd'hui un pays indépendant, mais elle a été d'abord une colonie italienne à partir de 1890. Et c'est notamment à partir de l'Érythrée que l'Italie fasciste de Mussolini avait fait la conquête de l'Éthiopie en 1935-36. L'Éthiopie, qui était un des rares pays africains, demeurait indépendant au moment de la colonisation de ce continent par les puissances européennes. Et donc, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Italie étant battue, l'Éthiopie récupère son indépendance et il est décidé de rattacher l'Érythrée à l'Éthiopie, qui justement voulait un accès à la mer Rouge. Et donc l'Érythrée va rentrer dans l'Éthiopie. Et donc l'Érythrée donc fait partie de l'Éthiopie, antériquement avec une certaine autonomie, mais très vite en fait, elle passe totalement sous la tutelle de l'Éthiopie, et ça va entraîner une guérilla côté érythréen qui va viser à l'indépendance du pays, indépendance acquise en 1993. Avec cela, l'Éthiopie perd son débouché maritime. Mais il y a eu une nouvelle guerre avec l'Érythrée entre 1998 et 2000, sur le tracé de la frontière, qui va faire quand même 100 000 morts. La situation demeure tendue depuis. Et par ailleurs, l'indépendance de l'Érythrée n'a pas mis fin aux problèmes posés par les fameuses minorités.
Quelles sont les minorités qui contestent la domination d'Addis Abeba ?
Alors, au moment de la guerre avec l'Érythrée, l'Éthiopie était par ailleurs confrontée à deux rébellions armées, celle du Front de Libération Oromo et celle du Front National de l'Ogaden, proche de la Somalie, et soutenue donc par la dite Somalie. Alors ces deux conflits prennent fin en 2018, mais un nouveau conflit a éclaté à la fin de 2020 dans la région du Tigré, qui est à la frontière de l'Érythrée, avec d'ailleurs un risque de famine dans la région, et les hostilités viennent de se réveiller, c'est assez récent, avec une partie des Oromos. Ajoutez à cela les conséquences du changement climatique. Dans la corne de l'Afrique, des pluies diluviennes se sont abattues à la suite d'une longue période de sécheresse, c'est tout récent, et le sol très sec n'absorbant plus l'eau, cela a provoqué des inondations dévastatrices qui ont affecté 1 million de personnes.
Peut-être quelques mots rapides, Jean-François Boulanger, pour illustrer vos propos avec ce pays donc qui reste quand même assez instable.
Voilà, et donc son intégration à l'économie mondiale reste vraiment, rend plus que jamais nécessaire le contrôle des régions frontalières et relance la question de l'accès à la mer. Pour l'instant, le seul accès à la mer, c'est une ligne de chemin de fer entre Addis Abeba et Djibouti qui a été créée par les Français. Elle est aujourd'hui totalement vétuste, mais il y a une nouvelle ligne qui vient d'être construite avec des capitaux chinois, avec un prêt sur 15 ans que l'Éthiopie et Djibouti vont devoir rembourser bientôt. La Chine qui par ailleurs a une base militaire à Djibouti. Donc vous aurez compris que l'Éthiopie est devenue un pays intéressant pour les Chinois dans le cadre de leurs exportations. Mais évidemment, cela est insuffisant pour le gouvernement éthiopien.
D'où le fait d'ailleurs que le Premier ministre éthiopien exige aujourd'hui un accès à la mer Rouge.
Voilà, hein, effectivement, il a menacé très clairement. Aujourd'hui, après avoir soufflé le jeu, il calme le jeu, en disant que tout cela peut se négocier, mais en rappelant quand même que nous n'avons pas choisi le conflit, mais que, effectivement, si les gens ont faim, si un jour il y a une famine en Éthiopie, ils feront tout plutôt que d'accepter de mourir, autrement dit, ils n'hésiteront pas à revendiquer clairement un accès à la mer. Et donc, le but, évidemment, c'est de favoriser, je cite, le commerce transfrontalier.
L'Éthiopie a-t-elle les moyens de sa politique, Jean-François, pour conclure ?
Oui, parce que son entrée dans le BRICS la renforce, et on voit bien qu'il en est de même de ses liens avec la Chine. Par ailleurs, le fait que l'Éthiopie contrôle les sources du Nil et soit le château d'eau de la région, alors même que la question de l'eau va devenir centrale, lui donne bien entendu des arguments.
Merci Jean-François Boulanger de nous avoir éclairé sur ce nouveau BRICS, l'Éthiopie.
À bientôt.
À Reims,
Chalon, Charleville-Mézières, c'est le 18-19 sur RCF.
Et on va faire attention à ne pas trop exploser les chronos. On a déjà pris un petit peu de retard ce soir, 18h22. Pour la deuxième fois cette année déjà, nous prenons la direction de Gendin dans les Ardennes. François Garcia, maire de la commune, nous parle avec Jean-Pierre comme intermédiaire.
François Garcia, bonjour.
Bonjour Jean-Pierre.
Merci d'être avec nous. On vous a eu le plaisir de vous accueillir il y a quelques semaines sur l'antenne. Et on s'était dit que finalement Gendin était une si belle commune qu'on avait loin d'être tout dit. On rappelle un petit peu quand même le nombre d'habitants à Gendin aujourd'hui.
Bah écoutez Jean-Pierre, Gendin aujourd'hui c'est un peu plus de 300 habitants. Hein, c'est-à-dire une commune qui se peuple dans les Ardennes. C'est pas donné partout, hein, mais dans le secteur des crêtes ardennaises, c'est le cas.
Alors ça, c'est une bonne nouvelle. Et je sais, on en a discuté, François Garcia, que vous êtes maire déjà depuis quelques années à Gendin.
Ben, c'est mon deuxième mandat de maire. Hein. Cinquième et le deuxième mandat de maire. Je suis passé par toutes les strates, on va dire, des conseils municipaux.
On avait évoqué, mais on n'avait pas eu le temps d'approfondir, d'éventuels travaux dans l'église de Gendin.
Ah oui. Ben, disons que Gendin a la particularité d'être d'avoir une église magnifique qui vient d'être complètement restauré. Alors ça n'a pas été fait tout seul parce que c'est un travail d'équipe avec notamment une association qui s'appelle Culture et Patrimoine à Jondain et qui a su insuffler une dynamique, on va dire, assez exceptionnelle puisque on a refait la chapelle de Saint-Fiacre qui est le patron du village. Et donc, on était tombé sur une chapelle où il y avait des peintures d'époque qui ont été complètement restaurées. On a fait appel à une entreprise, hein, à des artisans qui travaillent sur la grotte de Lascaux pour restaurer ça.
Donc, tout cela, c'est en route. C'est un projet qui tient à cœur. François Garcia, c'est vrai que dans les crêtes pré-ardennaises, on voit Voynic, on voit la 34, mais on sait qu'il y avait la voie romaine. Il y avait tout cela qui passait. Et ça vous donne des idées pour peut-être aménager des chemins en lien avec l'archéologie et l'histoire.
Absolument. Ce qui compte pour nous, hein, Ardennais, où nous sommes quand même très attachés à l'histoire, à nos racines, c'est de redécouvrir un passé oublié, hein, un passé oublié à travers notamment le cheminement. Donc nous avons restauré à Jondain des sentiers d'histoire qui nous amènent sur des fouilles archéologiques autour d'une nécropole mérovingienne, une grande nécropole mérovingienne, puisque une partie du trésor est d'ailleurs à Reims. Et puis ensuite, nous avons repris le cheminement de la voie romaine qui partait de Reims pour aller sur Cologne.
Donc ça veut dire que dans quelques semaines, dans quelques mois, peut-être déjà même actuellement, on peut emprunter ces chemins, hiver ou été d'ailleurs, parce qu'il y a toujours des personnes qui marchent quelle que soit la période de l'année.
Absolument, absolument. Mais d'ailleurs, il y a beaucoup de marcheurs qui passent sur ces chemins-là, mais qui ignoraient en fait qu'en fait tous ces chemins existaient déjà bien des siècles avant.
Ça veut dire que vous allez faire certainement un effort de signalisation, peut-être des panneaux explicatifs pour en faire que le marcheur soit informé.
Absolument. Hein. Donc là, nous avons monté un projet financé aussi avec l'aide de l'Europe, hein, un projet assez conséquent pour une petite commune comme Jondain. Et donc, il y a tout un parcours, un cheminement avec des statues de Romains ou de Mérovingiens, avec des photos d'éléments de temples ou de nécropoles que nous avons retrouvées dans les musées, hein, et des explications naturellement sur l'histoire et l'archéologie.
On a le sentiment tout de même, François Garcia, que depuis quelques années, l'ensemble des crêtes pré-ardennaises et des villages comme votre commune, Jondain, s'est considérablement amélioré dans son cadre de vie, dans sa présentation. Même quand on passe en voiture sur ce qu'on appelle l'ancienne route de Paris, on apprécie quand même tous ces changements.
Oui, absolument. Bah, disons que Jondain a su conserver son patrimoine, le côté positif de son patrimoine, hein, c'est des paysages très ouverts, très lumineux, qui ont conservé les pâturages, qui ont conservé, on va dire, un système qui nous vient du passé et qu'on remet au jour, actuellement et qui est pas mal, quoi. Les gens redécouvrent la nature et se l'approprient.
Pour l'église, est-ce qu'il y aura une présentation d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, une inauguration en quelque sorte un peu officielle ?
Bah écoutez, nous, ce qu'on voudrait faire, c'est déjà, on va déjà au printemps, au mois de mai, je pense, hein, avoir une présentation des travaux qui ont été faits autour des sentiers d'archéologie. Et naturellement, nous ouvrirons l'église. Hein. D'ailleurs, l'église est souvent ouverte, hein, pour les journées du patrimoine ou des choses. Et nous ouvrirons l'église pour visiter et pour expliquer ce qui se fait déjà, parce que moi, je rencontre pas mal de pèlerins qui viennent frapper à la porte en demandant une visite de l'église commentée. Donc, on s'y prête volontiers.
Et pour terminer, François Garcia, les projets en cours, vous en avez aussi peut-être un ou deux autres, mais je sais que vous avez déjà beaucoup travaillé, hein, pendant ces quelques années déjà où vous avez été maire dans cette commune.
On a le projet, c'est de rassembler les gens. Ce qui compte pour un maire d'une petite commune, c'est de rassembler les gens autour de leur patrimoine, autour de la vie associative, autour du partage de nos valeurs, on va dire, de village, hein, les traditions. Par les temps qui courent, je pense que c'est primordial pour que les gens profitent de la vie ensemble.
Et c'est vrai que dans des campagnes ardennaises, il y a l'occasion, vous n'êtes pas très loin non plus de l'Aunois. Finalement, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'associations un peu partout, hein, dans tous les villages de ces crêtes. Et ça, c'est vraiment le signe d'une vraie vitalité dans les territoires.
Oui, absolument. Mais y a aussi, on va dire, le travail des crêtes pardonnaises, hein, des crêtes pardonnaises qui est la communauté de communes dont Jandin fait partie, et qui a su aussi insuffler, on va dire, tout ce qui tourne autour du patrimoine, tout ce qui tourne autour de la ruralité.
Eh bien, François Garcia, on vous remercie d'avoir été avec nous. On avait eu l'occasion de vous interroger il y a quelques semaines, et on vous avait posé la question, donc je ne vous la repose pas, mais la réponse mérite encore d'être mise en lumière. Et la question, c'était, êtes-vous un maire heureux ? On sent que vous êtes de toute façon un maire passionné, et la passion entraîne forcément le bonheur d'une certaine façon.
Je pense, oui, effectivement, qu'on ne se force pas pour être maire, hein, sinon ça ne peut pas le faire. Non, c'est passionnant de construire avec les autres, en même temps que les autres, enfin, de construire ensemble quelque chose.
Merci François Garcia d'avoir été avec nous et avoir mis à l'honneur à la fois votre travail, votre mission de service auprès des autres et de rassembler, comme vous l'avez dit, les personnes de Jandin. Comment s'appellent les habitants de Jandin ?
Tout simplement les gens du Noix.
Les gens du Noix. Merci d'avoir été avec nous. À bientôt sur RCF. Au revoir.
Merci à vous. Au revoir.
Merci François Garcia, merci Jean-Pierre. Le tic-tac des aiguilles font tourner l'horloge et à 18h30, c'est l'heure du journal régional. Les titres de ce lundi 11 décembre 2023, retour sur la soirée de la laïcité organisée vendredi soir par l'Institut catholique de Paris Campus de Reims et la ville de Reims. À l'approche du renouvellement de son assemblée de 180 membres, le Césaire Grand Est a examiné plusieurs dossiers, notamment les formations et la gestion des aéroports.
RCF, l'actualité régionale, Alexis Claudretz.
Vendredi dernier, c'était la journée de la laïcité. De nombreuses manifestations ont eu lieu à cette occasion, dont une soirée d'échange à l'Institut catholique de Paris, campus de Reims, co-organisée par l'ICP et la ville de Reims, Temps Fort, auquel a participé le père Bourdin des frères dominicains.
Je pense que le sujet, de toute façon, en France, en vaut la peine. C'est un peu un totem, la laïcité en France. Et puis, dans une université catholique, c'est encore plus important, parce que il est intéressant, je crois, d'entendre la voix de croyants s'exprimer sur la laïcité aujourd'hui, mais aussi ce qu'ils ont pu apporter dans le passé. Il y a plusieurs enjeux, à la fois historiques et d'actualité.
Le député Xavier Albertini a participé à cette même table ronde et nous dit ce que pour lui représente la laïcité.
Représente le symbole qui devrait d'ailleurs être celui de tous les jours de l'année. C'est le rapprochement et la confiance que nous devons tous avoir autour de cette liberté qui permet à chacun de croire ou de ne pas croire et qui s'appuie sur la 1905. C'était un moment important où il nous faut réapprendre, apprendre, continuer à travailler sur cette liberté pour que tous les Français puissent vivre dans une forme d'harmonie, dans le respect de leurs croyances ou de leurs non-croyances et faire en sorte qu'ils puissent ensuite exprimer de façon paisible leurs croyances religieuses.
Catherine Vautrin, présidente du Grand Reims, a refermé les débats avec le mot de la fin. Elle souligne au micro de RCF Reims-Ardennes l'importance de la laïcité.
On a connu dans notre pays la loi de 1905. Elle a maintenant pratiquement 120 ans. Mais c'est vraiment quelque chose qui, on le voit dans le contexte actuel, qui est absolument indispensable. Nous nous reconnaissons en France, quelle que soit notre religion, que l'on soit croyant ou athée, on a l'opportunité de se retrouver dans une logique qui est celle de la République. Et je crois que c'est extrêmement important. Et quelque part, Montesquieu le disait il y a bien longtemps, hein, quand il parlait de la liberté de toucher à la loi d'une main tremblante, eh bien, s'il y a bien un domaine sur lequel il faut être particulièrement vigilant, c'est celui-là.
Des propos recueillis au micro de RCF Reims-Ardennes. Vous, Kylian, vous n'avez pas participé à la soirée de la laïcité vendredi soir, vous étiez aux Habits de Lumière à Épernay. C'était une belle édition, vous avez passé un week-end plutôt festif.
C'est ça, une très belle édition pour les Habits de Lumière à Épernay.
Qu'est-ce que vous avez fait en particulier ?
Eh ben, on a pu découvrir tout plein de maisons de champagne de la région d'Épernay.
Donc vous avez surtout dégusté les champagnes, mais le côté décoration, fête des lumières, tout ça, non, pas trop ?
Ah si, si, quand même, toutes les maisons étaient bien éclairées avec de belles illuminations.
Plutôt de bonnes impressions alors sur cette fête des Lumières 2023. Manon, vous y étiez aussi, vous, le samedi. Vous n'êtes pas croisé d'ailleurs avec Kylian ?
Non, parce que je suis venue le samedi, pas le vendredi soir.
Kylian y était aussi le samedi.
Ah bon ?
Eh oui.
Et voilà, vous communiquez mal. Je pense que les étudiants en communication, c'est un petit peu raté. Bon, vous avez apprécié cette édition, Manon ?
C'était sympathique, certes, il y a beaucoup moins de parades et d'illuminations que les années précédentes. Je me souviens très bien d'un souvenir quand j'étais petite que je montais dans un dragon, dans la bouche du dragon mécanique.
C'est la nostalgie de l'enfance parce que cette année, vous ne montez plus dans le dragon, ça, Manon.
Mais parce qu'il n'y en a plus.
Bon, très bien, il n'y en a plus, bien voilà, l'appel est passé à la ville d'Épernay. Remettez-nous le dragon, que Manon puisse monter dedans. On vous l'annonçait dès vendredi, c'est officiel, Monseigneur Touvet a annoncé par voie de communiqué vendredi dernier que l'œuvre d'Orient s'installait à Annecy après le départ de la communauté du Verbe de Vie, aujourd'hui dissoute. Monseigneur François Touvet, qui a par ailleurs été installé comme évêque coadjuteur du diocèse de Fréjus-Toulon ce dimanche. Demain, mardi, est organisée la deuxième édition du Technorientation au lycée François Bazin de Charleville-Mézières, de 10h à 18h. Le campus des métiers et des qualifications, procédés et matériaux innovants, Grand Est et l'UIMM Champagne-Ardenne inaugureront ce forum des métiers et formations de l'industrie à 10h30, demain donc. Côté formation, vous pourrez découvrir des filières allant du Bac Pro au Master 2. Ce week-end, de nombreuses initiatives ont été organisées à travers tout l'Hexagone en faveur du télé pour une promesse de don à plus de 80 500 000 euros. En Champagne-Ardenne aussi, nous nous sommes mobilisés. Les Ardennais ont promis près de 80 000 euros, les Marnais un peu plus de 200 000 euros, les Haut-Marnais un peu plus de 50 000 euros et les Aubois aux alentours des 86 000 euros. Le 36-37 reste ouvert jusqu'à vendredi. Le Conseil économique, social et environnemental régional s'est réuni vendredi dernier à Metz. Au programme, des travaux sur le budget régional, la formation, les transports, ou encore les coopérations transfrontalières. L'occasion aussi de faire un bilan du mandat puisque le Césaire sera renouvelé en début d'année 2024. Marie-Claude Briet-Clément, présidente du Césaire Grand Est, a fait part de ses craintes en matière de formation professionnelle et de recherche-développement.
Une baisse substantielle des crédits consacrés à la formation. Le Césaire a marqué là son inquiétude au regard des transformations, besoins de formation et besoins liés à l'économie. La baisse des crédits consacrés à la formation professionnelle, elle nous interroge et sur la question aussi des formations sanitaires et sociales qui, nous semble-t-il, ne répondent pas aux enjeux majeurs. On remarque aussi une sous-utilisation de l'enveloppe de fonctionnement au niveau de l'apprentissage. Il y a un vrai risque d'avoir un déficit en matière de formation. Il y a aussi des risques qui pèsent sur le sanitaire et social, notamment liés de la fuite de nos compétences en dehors des frontières du Grand Est. Construire des vrais parcours étudiants sur les formations sanitaires et sociales. Un certain nombre d'inquiétudes également en matière de recherche, développement et d'enseignement supérieur.
Des propos recueillis par Sébastien Souissy pour RCF. La préfète de région dévoilera la composition du futur Césaire le 31 décembre prochain. La nouvelle assemblée sera installée officiellement le 25 janvier à Metz. Les résultats sportifs du week-end, on commence par du football et un bel exploit en Coupe de France. Celui de Reims-Sainte-Anne qui a dominé Dunkerque au tir au but après avoir obtenu le match nul un partout à l'issue du temps réglementaire. Rendez-vous en 32e de finale désormais. Victoire également pour les féminines du stade de Reims en D1 Arkema. Succès 2-0 face à Fleury qui permet aux Rémoises de monter à la 4e place du classement. Moins de réussite pour leur homologue masculin battu 2-1 à Nice. Les Rouges et Blancs reculent à la 8e place de la Ligue 1. Les nouvelles venues des parquets ne sont pas plus positives puisque les Flammes Carolo se sont inclinées 99-61 à Angers et sont désormais 8e de Ligue féminine de basket. En Pro B, Chalon-Reims s'est fait dominer à Nantes 90-73. En volet, Chaumont sauve les meubles et s'est imposé à Montpellier 3-7-1 et prend seul la tête de la Liga. Ainsi se referme ce journal. Le 18-19 en Champagne continue sur RCF.
Le 18-19
tous les jours
sur RCF
à Reims,
Chalon, Charleville-Mézières.
Et on parle marque locale, on parle Made in Marne. Annie Coulon, vice-présidente au conseil départemental de la Marne, partage le bilan positif du Made in Marne, une initiative départementale couronnée de succès. À la barre du comité d'agrément, elle orchestre une connexion fructueuse entre producteurs locaux et consommateurs. Découvrez comment cette démarche lancée par le département célèbre l'excellence et renforce les liens au cœur du terroir marnais. Annie Coulon avec Jérôme Gorgeau.
J'ai la chance de pouvoir parler avec Annie Coulon. Bonjour Annie.
Bonjour. Bonjour Jean. Bonjour à tous.
Annie Coulon est vice-présidente au conseil départemental de la Marne. Et donc Annie, je dirais que tu es un peu l'élu qui est derrière le Made in Marne. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit le présenter ?
Non, ce n'est pas un élu, c'est un comité d'agrément qui se réunit régulièrement, donc qui est constitué d'élus du département, mais aussi d'élus de chambres consulaires, comme la chambre d'agriculture, la chambre de commerce et puis la chambre des métiers. Ce qui nous permet vraiment d'étudier les dossiers d'une façon très professionnelle.
C'est né comment le Madin-Marne ? C'est né quand et c'est né comment ? Il y a déjà un petit moment maintenant, on a lancé ça il y a au moment de la foire de Chalon.
Alors on a lancé ça en 2021, effectivement, à la foire de Chalon. C'était identifier des producteurs et artisans qui avaient le savoir-faire et le plaisir de présenter des produits vraiment locaux. Parce que le but est de vraiment identifier des produits qui sont plus de 50% marnais.
Il faut expliquer aussi qu'Annie, tu es également la présidente de l'ADT, donc l'Agence départementale du tourisme, ce qui donne, je dirais, un plus dans ta façon un peu d'appréhender ces questions.
Oui, présidente de l'ADT, nous avons aussi des membres qui font partie du comité d'agrément. Et ça nous permet, oui, effectivement, de pouvoir présenter des personnes que nous connaissons parce qu'ils sont déjà dans ce domaine et qu'ils ont un savoir sans le savoir qui peut mettre en valeur notre département.
Le label Madin-Marne, on va quand même évoquer un petit peu où on en est aujourd'hui au niveau chiffres, un petit peu comment on a un petit peu de gens qui ont ce label.
Oui, comment on devient, c'est à travers un document, enfin un dossier, ils le remplissent pour vraiment décrire le produit qu'ils veulent présenter et qu'ils demandent l'agrément. C'est aujourd'hui 75 ambassadeurs qui sont producteurs et artisans et plus de 300 produits qui sont vraiment labellisés. Enfin, c'est pas un label, on aime bien dire label, mais en fait c'est une garantie de qualité qui a été certifiée.
Tu as dû découvrir aussi des artisans, finalement, t'as dû...
Oui, bien sûr. Et puis, même nos collègues du département étaient surpris de voir autant de producteurs et d'artisans qui avaient envie d'être identifiés derrière une marque. Et puis, on a vu que ce n'était pas que des produits de bouche, c'est aussi bien des fauteuils qui ont été faits de mains d'artisans, de sacs faits de cuir. Et toute cette artisanale, on le découvre avec plaisir, parce qu'on imagine que c'est toujours dans les départements voisins, et non, sur la Marne, nous avons de beaux producteurs, de beaux artisans, qui eux sont des vrais passionnés, qui aiment transmettre leur passion. Et ça, c'est vraiment très appréciable.
Peut-être une belle surprise aussi, c'est qu'il y a un côté un peu un cocardier, un peu.
Alors là, je vais prendre ma casquette de présidente de l'ADT, parce que je peux vous dire que le visiteur, quand il vient sur un territoire, ce qu'il veut, c'est apprendre, échanger avec des gens qui ont un savoir-faire, qui savent manipuler avec leurs mains et créer des choses. Et ils ont vraiment besoin de s'échapper et de pouvoir, je vous dis, partager un élément précieux avec les autochtones de notre territoire.
Merci beaucoup Annie, en tout cas, vraiment, le Madin-Marne, c'est une aventure sincère, une aventure de partage, et puis qui valorise des gens qui le méritent vraiment. Merci beaucoup Annie.
Sous la direction éclairée d'Annie Coulon, le Madin-Marne s'épanouit comme un symbole vibrant de collaboration locale et d'excellence. Cette initiative est à retrouver sur madinmarne.fr.
Le 18-19 sur RCF.
Et désormais, on retrouve de nouveau Jean-Pierre Benoît, mais surtout une invitée qui est avec lui pour parler musique. Sandrine Lebec, chef de chœur de la maîtrise de la cathédrale, nous fait l'amitié de sa présence.
Sandrine Lebec, bonjour.
Bonjour.
Alors, on vous applaudit dès demain, on approche de Noël, et c'est toujours un grand plaisir. Il y a énormément de concerts, il y en avait il y a quelques jours à Rethel, il y en a eu également dans le cadre des Flâneries musicales. Alors là, vous donnez rendez-vous le 15 décembre à 20h. De quoi s'agit-il exactement?
Alors, c'est le concert de Noël de la maîtrise. Depuis l'année dernière, maintenant, les pré-maîtrisiens, les petits, eux ont leur propre concert de la Saint-Nicolas. C'était donc mardi dernier, le 5 décembre à Saint-Jacques. Là, ce sont tous les jeunes maîtrisiens à partir du CM1. Donc, ça rassemble à peu près 200 choristes du CM1 jusqu'au chœur d'hommes. Voilà, donc c'est un concert de Noël, bien entendu, avec des chants de Noël et beaucoup de gaieté.
Alors ça, c'est un rendez-vous exceptionnel parce que on a l'impression que tous ces maîtrisiens, ils forment quand même une famille musicale, certes, mais une famille aussi. On se connaît et puis c'est un rendez-vous, une aventure exceptionnelle pour des jeunes.
Alors oui, c'est un engagement c'est d'abord un engagement parce que on voit le côté beau des concerts, mais c'est un engagement. Notre première vocation est de chanter à la cathédrale, d'animer des messes. Ça demande une organisation familiale, un engagement de la part des enfants à partir du moment où ils s'inscrivent, parce qu'ils doivent aller jusqu'au bout du cursus. C'est une très 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 belle aventure parce qu'ils apprennent la vie. Ils se construisent avec la maîtrise. Oui.
Alors, il faut dire, vous l'avez rappelé, que souvent, vous êtes, entre guillemets, occupé par la liturgie et par les offices. Donc, c'est le dimanche, donc c'est le week-end. Il faut que les parents soient d'accord. Ça peut... c'est pas toujours évident. Et pourtant, ça marche.
Oui, bien sûr. Et puis, on a un grand nombre d'élèves. On a quand même plus de 200 élèves du CE1 à la 3e. Donc, même si on a 3-4 absents, il reste toujours une grande masse.
Il faut dire que depuis quelque temps, on a beaucoup de félicitations lorsque nous diffusons des célébrations en direct. On pense à la messe chrismale ou aux ordinations, l'ordination de Mgr Vetteux, etc. Vous êtes intervenu par le chant. Et là, j'allais dire, c'est sous les applaudissements.
Mais écoutez, c'était un vrai défi ce 9 septembre dernier pour l'ordination de Mgr Vetteux, parce que on a eu deux petites répétitions pour monter tout le programme. Et j'avais dit aux élèves, c'est un défi les enfants. Et puis en plus, il y a Justin Welby, l'archevêque de Canterbury, qui est là. Donc il faut être bon les enfants. Et ils ont été bons et ils étaient contents parce qu'on a eu des félicitations de Mgr Welby. Oui.
Et puis il faut dire aussi, Sandrine Lebec, que vous êtes vous-même une personnalité dynamique, passionné par la musique, mais aussi par l'enthousiasme, parce que vous transmettez cet enthousiasme et les enfants vous le rendent aussi.
Ça, c'est sûr. Je pense que c'est vraiment très important qu'un enseignant transmette sa passion, la passion de sa matière, la passion de son métier. Et les enfants, en fait, ils fonctionnent comme ça et ils vous le rendent au centuple.
Tous ne seront pas des musiciens,
non.
Tous ne seront pas des chanteurs, mais l'aventure qu'ils vivent avec vous, ça les marquera, à mon avis, pour toute leur vie.
Ça les construit, ça les marque. Nous, les artistes, on a besoin du public de demain. Donc, on a besoin d'avoir des jeunes qui aiment aller au concert et qui, eux-mêmes, plus tard, mettront leurs enfants dans des conservatoires. Il faut que ça continue, tout ça. Il y a une transmission.
Et la musique ouvre des espaces exceptionnels.
Oui, tout à fait. Et je pense que, par exemple, à la maîtrise, les élèves ont des emplois du temps terrible. Ça fait peur parce qu'ils ont cours de 8h à 18h, grosso modo, tous les jours à partir de la 5e. Mais, c'est une aventure. Ils apprennent à s'organiser. Ils apprennent le beau, à faire du beau ensemble. Ils se construisent peut-être plus vite que d'autres, mais ils savent aller à l'essentiel. Ils savent regarder le beau avec enthousiasme et ils savent s'émerveiller. Voilà. Parce que je trouve que c'est dommage d'avoir une jeunesse qui est blasée. Qui se dit, oh, rien ne les fascine, rien ne les... Ouais, tout est bof, quoi. Et moi, je vois mes élèves, ils sont pétillants, ils s'arrêtent, ils admirent un coucher de soleil. Voilà, je trouve que c'est important de les sensibiliser au beau et à la nature.
Et il faut dire qu'avec la maîtrise, vous allez à Rethel, vous allez à Reims, vous allez à Vouziers, vous allez dans les Ardennes, mais vous allez aussi au bout du monde, parfois. Vous avez des expériences uniques.
Alors,
pour vous et pour les jeunes.
Ça, c'est sûr. On a fait en 2019 les États-Unis. On était à Rome l'année dernière. Cette année, on va à Lourdes. Et l'année prochaine, c'est le Japon. Mais alors, le Japon, il y a une très, 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 très grosse organisation parce qu'il faut trouver 60 000 euros. Donc, j'ai un petit comité de pilotage de parents là pour qu'on mène des actions.
Et puis, à l'intérieur de ce groupe, sans faire de distinction, mais vous avez peut-être aussi des jeunes qui émergent dans le domaine de la musique. Certains qui en font un métier,
tout
peut-être.
À fait.
Soit dans
fait.
L'enseignement, soit dans le chœur. Vous avez sans doute en tête, sans peut-être citer de nom si ça vous ennuie, mais des jeunes qui, dont on a parlé, on se souvient d'émissions de télévision sur France 2 il y a quelques années, où on a mis en valeur certains chanteurs,
ça.
Certains choristes.
Tout à fait. On va dire que depuis 22 ans, je pense que j'ai une bonne vingtaine, 25 élèves qui en font leur profession, mais qui percent au niveau du chant. Allez, là, j'en ai deux qui me viennent en main. C'est Paco Garcia, qui a une petite trentaine d'années, qui fait une très, très belle carrière de ténor. Et Amandine Amirati, qui vient de l'Opéra de Reims. Ses parents étaient à l'Opéra et qui fait une très belle carrière de soprano.
On a connu ici, il faisait des émissions, Tony Amirati, du Grand Théâtre. Mais alors, c'est vrai aussi que ces jeunes qui réussissent dans ce domaine, ils servent aussi d'exemple et de modèle pour les autres aussi.
Exactement, surtout que lorsqu'on a donné le Requiem de Mozart, et ben Paco était le ténor, donc je l'expliquais aux élèves, je dis bah voyez là, Paco était maîtrisien, avait votre âge, il était à la maîtrise, voilà.
Alors, on ne peut que vous souhaiter un joyeux Noël avec la maîtrise. Et puis, en 2024, faites-nous une promesse de venir plus régulièrement, parce que vous venez quand on vous le demande. Mais c'est vrai qu'on vous sent tellement prise à gauche et à droite que vous avez un emploi du temps vous-même assez chargé. Hein.
Ben oui, parce que moi, ce qui me motive, c'est les projets. Je vois bien, on a un enregistrement, on aurait dû enregistrer là en novembre. Donc du coup, nous n'avons pas donné de concert en octobre.
Un enregistrement pour une...
Oui, pour un CD qui s'appelle L'Ange Sourire.
Ah bah, ça va être formidable.
Ça va être beau, ça. Oui. Mais on aurait dû l'enregistrer, on aurait dû le sortir là pour Noël. Mais du coup, c'est retardé d'une année. On va enregistrer en janvier et février. Mais du coup, les enfants, là, mes élèves sont en manque de concerts. C'est pour ça que là, ils sont à fond pour les concerts.
Ils ont été à fond à Saint-Jacques, ils ont été voilà, à fond pour la Saint-Nicolas et pour Rethel, bien entendu. Et comme ils sont à fond avec vous pour ce concert du vendredi 15 décembre à 20h, c'est à la cathédrale de Reims.
Oui, alors ne pas hésiter à venir avec un plaid pour avoir bien chaud, surtout pour le public parce que nous encore, on bouge un petit peu. Mais voilà, il ne fait pas très très chaud dans la cathédrale.
Merci en tout cas Sandrine Lebec d'avoir été avec nous.
Eh bien merci. Merci beaucoup de même, au revoir.
Et à bientôt, au revoir.
Bientôt.
Le 18-19 sur RCF.
Allez, pour les 10 dernières minutes à passer ensemble ce soir, arrivé en 2019, soit quelques mois avant le début de la crise sanitaire, la proviseure de la cité scolaire de Cézanne, Agnès Poiré, revient au micro de Christian Lanciot sur ses 4 dernières années au sein de sa fonction. Bonjour Christian.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Madame Poiré.
Bonjour Monsieur Lanciot.
Alors merci de nous accueillir une nouvelle fois. Alors on parle un petit peu, ce pas un bilan, mais alors vos 4 années, il y en a eu 2 affectées, on peut dire marquées par la Covid, enfin la fameuse pandémie, et puis 2 autres à peu près normales.
Oui, c'est vraiment cela, hein, à savoir que les 2 années de pandémie ne m'ont pas vraiment aidé dans l'évolution de la cité scolaire, mais tout de même nous avons eu 2 belles années, des années qui permettent d'avancer et qui nous ont quand même permis d'arriver sur de nouveaux dossiers, ouverture de... deux sections donc d'enseignement artistique notamment, et puis également transformation d'un CAP, alors électricien, qui est devenu CAP, donc intervenant technique et maintenance des bâtiments.
Bien, on peut dire que vous avez parlé de le côté artistique là, on peut dire que c'est une marque de fabrique de la cité scolaire de Cézanne.
Alors c'était déjà avant que je n'arrive, mais c'est devenu encore plus, à savoir que maintenant nous sommes un lieu d'art et de culture, nous accueillons régulièrement des expositions une fois par mois, nous avons également donc bien développé notre enseignement artistique au niveau du cinéma audiovisuel, mais également pour le théâtre, et c'est vrai que c'est devenu une marque de fabrique de la cité scolaire.
Alors, on parle un petit peu de l'actualité.
Alors, l'actualité, c'est, comme vous le savez, le harcèlement ainsi que le remplacement de courte durée. Donc, ce sont 2 points sur lesquels la cité scolaire s'investit et travaille, bien évidemment. Hein. Pour le harcèlement, éviter la souffrance des petits jeunes, éviter d'abîmer le climat scolaire qui, du coup, les empêche de bien travailler. Donc, nous faisions des choses déjà auparavant, mais ces actions que nous menions sont renforcées, aussi bien au collège qu'au lycée.
Alors, autre actualité.
L'autre actualité, donc le remplacement de courte durée, c'est également des choses que nous pratiquions avant, à savoir qu'on évite de laisser des élèves sans professeur. C'était fait de façon plutôt informelle, mais là, nous sommes maintenant obligés de formaliser. Voilà, mais les choses avancent plutôt bien et on a maintenant toute une brigade de professeurs prêts à réagir lorsque quelqu'un est absent. Ce qui ne veut pas dire que nous pouvons remplacer toutes les heures, mais nous faisons vraiment au mieux.
Écoutez, avant qu'on parle un petit peu de l'avenir et puis donc des projets futurs, vous nous redonnez un petit peu le nombre d'élèves et le nombre de sections et tout ce qu'il y a dans l'établissement de la cité scolaire.
Alors, il y a bien du monde. Je rappelle que la cité scolaire englobe 1200 élèves, en sachant qu'on en a toute une partie qui est au collège. Au collège, vous avez à peu près 400. Alors, je vais vous redonner des chiffres approximatifs dans la mesure où ça change sans arrêt, hein, entrée, sortie, etc. Donc, on a à peu près 450 élèves au collège, une section d'enseignement général et professionnel adapté avec une 50aine de petits jeunes. Et puis, on a également 700 élèves du côté du lycée, avec en enseignement général et technologique, puis général 500, un petit 500 élèves, et puis donc tout le reste, plus de 200, 250 élèves à peu près, sont également en section professionnelle. Et à côté de tout ça, on a également une unité locale d'intégration scolaire qui couvre le collège et le lycée avec trois professeurs référents. Donc ils s'occupent de petits jeunes qui ont des déficiences physiques ou mentales. Et puis on a également un Greta, voilà, donc de la formation pour adultes. Donc c'est vraiment une vaste boutique. Voilà, monsieur Lancio.
C'est là qu'il y a de la cuisine dans le Greta, entre autres.
Oui, bien sûr, puisqu'on a refait totalement la salle de restauration du Greta, donc le restaurant pédagogique qui est tout neuf. Et effectivement, on a rouvert un CAP en alternance cuisine. Donc ça, c'est partie des belles petites victoires. Voilà.
Mais alors moi qui suis l'actualité, j'ai quand même vu que durant l'année écoulée, là, l'activité scolaire est quand même souvent mise à l'honneur. Vous avez remporté des prix, là. C'était quoi ce prix Imagine à lire ?
Alors le prix Imagine à lire, en fait, c'est un prix qui est fait avec des collégiens, des lycéens de la zone de Sézanne de la Marne. Et puis les petits jeunes qui se distinguent parce qu'ils ont fait des lectures particulières, des créations particulières sont récompensés. C'est vrai que nous sommes lauréats.
Voilà, une compétition qui a eu lieu à Épernay.
Voilà, c'est ça, à Épernay, puisque c'est au niveau de la Marne.
D'accord. Alors, j'ai également vu que les élèves de la cité scolaire avaient bien travaillé pour Octobre Rose.
Alors, ils ont également bien travaillé pour Octobre Rose. C'est une action qu'on avait mise en place l'année dernière, et cette année, elle s'est étendue. À savoir que les petits jeunes des écoles primaires ont également été associés sur l'après-midi du 17 octobre. Et puis que nos sponsors se sont multipliés. Donc des entreprises sont vraiment partantes et partenaires pour soutenir cette action qui a quand même permis de récolter quelques fonds au profit de la recherche contre le cancer.
Alors je peux dire que au-delà de l'aspect culturel, je veux dire l'action culturelle de la cité scolaire, il y a aussi une marque de fabrique qui est le partenariat.
Alors le partenariat effectivement qu'on cherche à développer absolument, la cité scolaire est quand même partie prenante de la ville de Sézanne, hein, occupe le tiers de sa surface quand on regarde sur une carte aérienne, et on ne peut pas faire abstraction des entreprises, faire abstraction des associations, et c'est pour cela que c'est un partenariat que nous cherchons vraiment à développer.
Alors, dans ce partenariat et dans ces opérations humanitaires, je crois que vous avez également prévu une semaine caritative. Parlez-nous-en un peu.
Alors, c'est également une vieille tradition qui remonte à bien avant mon arrivée, à savoir que avant les vacances scolaires, la dernière semaine avant les vacances, donc là, ça sera du 17 au 22 décembre, nous organisons une vaste semaine caritative au cours de laquelle des actions à la fois ludiques, festives, mais également tournées vers les autres sont organisées, puisqu'il s'agit de récolter aussi des fonds, aussi bien des denrées alimentaires, des produits de première nécessité, que des espèces sonnantes et trébuchantes, au profit de l'épicerie sociale et puis des associations qui viennent en aide aux gens les plus démunis.
C'est une poursuite, une continuation de la banque alimentaire, en quelque sorte.
C'est ça. Voilà, avec toute notre population d'élèves de bonne volonté qui fait tout ce qu'il peut pour récolter ses fonds et qui sont toujours conséquents.
Non, mais c'est très bien de donner aux enfants, effectivement, cette notion de solidarité. Alors, avant de parler donc de l'avenir et notamment de l'opération Porte Ouverte, vous avez tout le temps un nombre d'internes important ?
Pardon ?
Vous avez tout le temps un nombre d'internes important ?
Ah, alors, le nombre d'internes a un peu augmenté cette année. Hein, on est passé au-dessus des 30, je suis bien contente. Mais il reste quand même bien en deçà du nombre d'élèves qu'on pourrait accueillir et surtout bien en deçà de ceux qui en auraient vraiment besoin. C'est dommage, préfèrent faire des kilomètres matin et soir plutôt que de rester à l'internat où ils ont quand même des conditions d'accueil, de travail qui sont idéales.
Et en plus, je crois que c'est dans les enfants qui sont à l'internat, enfin les élèves ou les étudiants qui sont à l'internat, vous faites également l'atelier théâtre.
Alors l'atelier théâtre, c'est plutôt le mercredi après-midi. Donc effectivement, les petits jeunes qui sont là toute la semaine ont plus de chances de pouvoir y participer. De même que le BIA, donc le brevet d'initiation à l'aéronautique. Si vous êtes à l'internat, vous pouvez être là également le mercredi après-midi. Et c'est là que vous pouvez bénéficier de ces fameux cours et leçons de pilotage.
Donc j'ai pris note que vous aviez fait un peu de pub, gentiment, pour l'internat.
Voilà.
Donc, avis aux amateurs et aux parents qui voudraient. Alors, on termine par, comme tous les ans, vous nous parlez de l'opération Porte Ouverte. qui va avoir lieu en mars.
Voilà, donc notre prochaine opération portes ouvertes le 23 mars, 9h à 13h, qui permet à la fois de découvrir les ateliers, les ressources de la cité scolaire. Et pour finir, j'aimerais quand même rappeler, monsieur Lanciot, que ces ressources sont telles que même si nous sommes dans un lieu un petit peu, disons, isolé, nous faisons quand même, nous avons des vraies pépites d'élèves, dont une petite jeune quand même qui s'est distinguée avec le premier prix aux Olympiades, quatrième au niveau national. Et puis également, cette même jeune a eu les mentions au baccalauréat avec les félicitations du jury. Donc nous avons de très belles réussites, donc venez voir à Cézanne ce qui se fait à Cézanne. Voilà.
Madame Poiré, merci. Et puis, ben, on viendra vous voir dans un an, comme d'habitude. Et en attendant, bonne fin d'année scolaire, bonne fête de Noël à vous et à vos élèves, et puis à tous nos auditeurs. Au revoir.
Eh ben, je vous renvoie le compliment, monsieur Lanciot, à vous et puis à tous les auditeurs.
C'est là-dessus que se referme le 18-19 en Champagne ce soir. Dans quelques instants, c'est l'information nationale qui prend le relais. Très bonne soirée en compagnie des programmes de RCF. Merci pour votre fidélité.